Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padjemi, bienvenue dans l'épisode 21 de Miroir Miroir. Dans cet épisode, on va s'intéresser à notre corps, et plus précisément à l'exploration de ce dernier. La vulve, le vagin, le clitoris ou encore le périnée, qu'est-ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur de nos corps? Pourquoi c'est là? À quoi ça sert? Quels sont les bénéfices de connaître exactement leurs fonctionnalités? Mais plus encore leur nécessité, comme une clé pour un épanouissement personnel, sexuel et gynécologique. Pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Clarence Edgarosa, rédactrice en chef au digital de Marie-Claire, qui vient de sortir aux éditions La Musardine, Connais-toi toi-même, un guide d'auto-exploration du sexe féminin. On va voir ensemble en quoi le self-help, ce mouvement féministe qui date des années 70, vit un retour intéressant, et pourquoi il est aussi important de connaître son corps à l'ère MeToo. Bonjour Clarence.
Bonjour.
On se connaît un tout petit peu personnellement, donc on va se tutoyer, ce sera plus simple. Alors pour commencer, j'aimerais bien que tu resitues pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ce qu'est le mouvement self-help, comment il est né et pourquoi c'était vu comme une révolution à l'époque, pour ensuite être un peu oublié, pour mieux revenir dans les années 90.
Alors le mouvement self-help, c'est un mouvement qui est effectivement né dans les années 70, d'abord aux États-Unis et au Canada, et ça a été le fait au démarrage de groupes féministes et de professionnels de santé qui étaient plutôt engagés pour les droits des femmes. Et ça s'est fait dans le même temps que les luttes pour l'accès à la contraception, l'accès à l'IVG, etc. Mais c'était vraiment une lutte de l'intime. Et en fait, à l'intérieur de petits groupes de femmes qui se réunissaient pour défendre leurs droits de façon privée, voilà, dans des espaces fermés et souvent non mixtes, des professionnels de santé sont venus expliquer et vulgariser tous les savoirs possibles sur l'anatomie dite féminine. Et donc, il y a eu des démonstrations avec miroirs, avec spéculum, des tests de grossesse faits maison. Des explorations notamment du col de l'utérus, auprès de femmes qui, comme celles qui découvrent ça aujourd'hui pour la première fois, n'avaient jamais vu de telles choses, puisque c'est des savoirs qui généralement étaient plutôt connus des médecins que des patientes elles-mêmes. Et donc ça a été des découvertes qui ont été dingues pour ces femmes-là. Elles se sont rendues compte à quel point c'était des outils politiques pour récupérer leur corps, pour ne plus subir la médecine, mais en devenir actrice et tout simplement être plus autonome. Et donc de là ont commencé à circuler des petits guides, d'abord complètement fait main, qui se passaient un peu sous le manteau, et puis ensuite il y a deux gros livres, d'abord un dans les années au début des années 70, puis 10 ans plus tard début des années 80, qui étaient vraiment des guides ultra exhaustifs, ultra complets.
Comme le tien, finalement.
Alors non, le mien, je dirais que c'est plus un hommage à ces livres-là, mais là, c'était vraiment des énormes pavés de bouquins qui étaient très, très exhaustifs sur les questions médicales. Et puis qui était le fruit vraiment de travaux très très longs, avec énormément de témoignages, avec beaucoup d'images. Donc moi, c'est un petit livre qui essaye de leur rendre hommage. Mais voilà, du coup, ces deux gros bouquins, bah, ils ont complètement révolutionné l'imagerie qu'on avait jusque-là, notamment. Donc tous les schémas, c'était des schémas qui étaient complètement nouveaux. C'était des schémas dans lesquels on voyait des vraies femmes. C'était pas des morceaux de femmes, en coupe. C'était des femmes qui avaient des mains qui étaient actives de la découverte de leur corps, notamment. Donc ça, c'était assez fou. Moi, je suis fascinée par ces livres, vraiment. Et puis voilà, ce mouvement, il est resté quand même relativement confidentiel. Enfin, ça concernait principalement des femmes déjà engagées dans les questions féministes. Donc ça, c'est pas Madame Tout le Monde. Il s'est ensuite exporté en Europe, donc en France, en Suisse principalement. Et puis ensuite, il a eu un petit sursaut dans les années 90. Donc les années 90, c'est le mouvement punk notamment, qui m'est cher. C'est le mouvement du coup DIY à ce moment-là. Et le mouvement DIY, c'est plusieurs choses, notamment des fanzines, donc des auto-éditions un peu à l'arrache de feuilles A4 photocopiées. Et du coup de femmes notamment qui se sentent légitimes à faire des auto-éditions et à raconter ce qu'elles ont à raconter. Donc souvent des expériences personnelles. Et la deuxième chose, c'est que le fait maison, c'est aussi partir à la découverte soi-même de plein de choses, et notamment de son corps. Donc petit sursaut dans les années 90. Et encore une fois, ça reste confidentiel. Ça concerne, enfin, le mouvement punk. Encore une fois, c'est pas Madame Tout le Monde qui s'y est intéressée. Et voilà, là aujourd'hui, moi j'observe avec vraiment beaucoup de bonheur encore un sursaut. Ça vient de plein de choses, hein. C'est multifactoriel, mais c'est vrai que plein d'ateliers apparaissent depuis quelques mois et quelques courtes années, là.
On en parlera un peu plus tard, de toute façon. Mais c'est vrai que tu as divisé le guide en 10 parties, avec le lever de rideau, la vulve, le vagin, le col de l'utérus, le point G, le clitoris, le périnée, les ovaires, les fluides et les seins. Est-ce que tu pourrais expliquer simplement comment on fait pour se regarder et mieux connaître son organe sexuel à travers ces 10 étapes ?
Alors en fait, je ne les ai pas spécialement pensées comme 10 étapes. C'est-à-dire que ce n'est pas un cheminement, ça n'a pas vocation à être fait dans cet ordre-là nécessairement, c'est juste 10 pistes. Je ne dis pas non plus qu'à la fin des 10, si on les a faites les 10 en tout cas, on connaît parfaitement son anatomie, c'est pas le cas. Mais c'est 10 pistes, voilà. J'ai voulu commencer par une exploration qui n'en est pas vraiment une, puisque la première, comme tu l'as dit, je l'ai appelée levée de rideau. Et j'ai juste voulu mettre l'accent sur le fait qu'en fait, la première exploration qu'on fait, c'est juste décider de se donner ce temps pour soi et faire taire toutes les injonctions contradictoires qu'on a eues jusque-là et qui nous ont poussé à ne pas le faire. Et à penser que notre sexe est sale, à penser que c'est malsain d'aller à cette découverte, de le connaître et de juste faire la démarche d'être à l'écoute de son plaisir. Ou juste de mieux connaître le fonctionnement de son anatomie. Donc la première exploration, c'est ça. Et puis les 9 autres, effectivement, je me suis concentrée sur les choses qui me paraissaient les plus essentielles. Donc ça commence par quelque chose de très basique qui est juste regarder sa vulve avec un miroir. Mais ça déjà, c'est un step très important pour plein de femmes et de personnes qui ont une vulve de manière générale. Et après, ça va jusqu'à, par exemple, l'exploration du col de l'utérus qui, je le sais, n'est pas quelque chose de simple pour tout le monde et qui peut paraître un peu impressionnant. Mais donc voilà, c'est... Ça n'a pas vocation à être forcément suivi de la première à la dernière dans l'ordre. C'est 10 pistes, en tout cas pour faire ce chemin intime.
Donc pour résumer, pas besoin de le faire le même jour, en même temps. Enfin, ça peut se faire continuellement.
Il y a surtout aucune obligation de rien. Voilà. Et puis, surtout, ce qui est important de préciser, c'est que l'auto-exploration et le fait de connaître son corps, c'est surtout une relation, en fait, qui se crée dans la durée. Plusieurs fois dans le livre, je compare ça à une amitié. Une amitié, c'est quelque chose qui se... qui se bichonne dans la durée. Voilà, c'est pas, on va pas juste rendre visite une fois à un ami. Si on veut vraiment que ce soit une amitié qui dure, on va lui rendre visite régulièrement et on prend soin de lui, on prend de ses nouvelles et on essaye de faire en sorte qu'il y ait une conversation qui se crée et qui se maintienne. Donc c'est exactement la même chose. Et en fait, pour bien comprendre le fonctionnement de son corps et être à même de comprendre quand il y a quelque chose qui potentiellement va moins bien, ça se fait en étant dans la régularité et puis en créant cette relation.
Comme tu le disais tout à l'heure, c'est moins connu du grand public, mais dans les réseaux féministes et notamment militants, ça fait plusieurs années que des ateliers se mettent en place pour s'auto-explorer avec notamment l'exercice du fameux miroir. Et comme tu le rappelles, des militantes féministes comme Pussy Drama ou encore Clooney Brown ont remis au goût du jour ces consultations. À ton avis, pourquoi cette reprise de pouvoir de son corps a eu lieu ? Est-ce que tu penses que c'est grâce ou à cause de MeToo que les femmes ont plus que besoin de se reconnecter à leur corps dans ce qu'il y a de plus profond ?
Alors déjà, je dirais que tu as cité deux femmes remarquables quand même. Enfin, c'est vrai que c'est deux des actrices de ce renouveau et qui sont effectivement à mentionner parce qu'elles sont elles ont une démarche qui est effectivement remarquable et voilà, elles le font avec beaucoup de bienveillance et de cœur et de justesse, chacune à leur manière. En fait, je pense que c'est multifactoriel, mais j'ai l'impression quand même que la première chose qui a fait que ce mouvement a été un peu remis au goût du jour et que je pense qu'il provient vraiment d'un besoin profond, collectif. La première chose pour moi, c'est donc la prise de conscience collective sur les violences gynécologiques. Je crois que c'est ça émane quand même pas mal de là. Moi, je me suis rappelée, là, il y a peu de temps, que quand j'étais ado, j'avais vu un film qui s'appelait Teeth, qui est donc tu vois ce que c'est, peut-être ? Un film...
ça me dit quelque chose,
c'est un film
américain,
un peu série B, okay. Un peu bizarre, sur le mythe du vagin denté, okay. Mythe millénaire. Et donc, c'est une adolescente américaine qui a un vagin denté. Un vagin qui mord et qui fait mal. Et ce film bizarre, je l'ai regardé quand j'étais ado et il y a une scène où elle se rend à sa première consultation gynécologique. J'ai revu ce film plus tard dans le cadre d'un cycle d'analyse féministe sur le cinéma américain et je me suis aperçue que cette scène était effroyable. Parce qu'en fait, c'est une scène de consultation gynéco avec un médecin qui est d'un paternalisme absolument effarant. La scène est horrible. Horrible. Moi, je la trouve horrible. Peut-être que mon niveau de tolérance est bas, mais non, il est très paternaliste. Il lui parle comme une idiote. Il ne lui dit pas ce qu'il s'apprête à lui faire. Il ne lui pose aucune question. Il lui parle de rien. Il l'allonge sur la table d'examen. Et ça finit pas hyper bien. Mais voilà ce dont je me suis rendu compte quand j'ai revu ce film à l'âge adulte, c'est que quand je l'ai vu adolescente, j'ai trouvé cette scène parfaitement normale. J'ai même pas tiqué. J'ai même pas eu un mouvement de sourcil. Ça m'a paru normal parce que ça me rappelait ma première consultation gynécologique. Donc, je dirais que la première chose pour moi qui est vraiment fondatrice de ce besoin collectif aujourd'hui de se réapproprier ce corps et puis ces savoirs-là, c'est cette prise de conscience-là. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a plein de gestes médicaux qui sont pas utiles, qui sont pas normaux, voire qui sont invasifs ou violents, qu'on a tendance à être placé quand même en tant que femme continuellement dans une posture de patiente qui est souvent problématique parce que très très passive, voilà, et on nous a appris que c'était tout à fait normal. Donc une fois qu'on se rend compte de ça, on peut plus fermer les yeux là-dessus. Et à ce moment-là, effectivement, le fait de mieux connaître son corps et de s'approprier ces infos-là, ça permet d'être beaucoup plus actrice de sa santé sexuelle. Donc ça permet par exemple d'aller chez le médecin en étant très au clair sur ses symptômes, en pouvant les décrire très clairement, en s'alarmant pas aussi pour des trucs anodins. Et en fait, ça change tout.
Alors comme tu me disais tout à l'heure, c'est un hommage, donc notamment aux fanzines de l'époque et de la période punk. Les illustrations, j'ai adoré, elles sont réalisées par Suzy Q. Et c'est vrai que je faisais la blague sur Twitter que c'était pas évident de lire ce guide dans le métro parce que les illustrations, elles sont franches et totalement réalistes, ce qui est bien. C'est juste que bon, les gens n'ont pas l'habitude de ça.
C'est pour ça qu'on a fait une couve avec de la typo, c'était pour t'aider dans le métro. Apparemment, ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas suffi, mais je pense que c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'en les regardant, j'ai tout de suite pensé à la manière dont on souhaite à chaque fois cacher ses vagins, cacher ses clitoris, dont le tabou autour de la sexualité féminine est grand, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça, justement. Et l'une de tes témoins, Clémentine, dit, je cite, « Je crois qu'au fond, on prend conscience qu'on est toutes pareilles, qu'on soit cisgenre ou pas, expérimentée ou pas, à l'aise ou pas. On a ce sexe caché dont on a souvent voulu nous faire croire qu'il était honteux. Est-ce que, finalement, le premier pas vers l'auto-exploration, c'est de se voir représenter son sexe pour ne pas en avoir peur. »
Je suis totalement en accord avec cette idée. C'est pour ça que les images sont si importantes. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis fascinée par ces guides-là. Ce qu'on a voulu faire, c'est réinventer un peu la grammaire visuelle des schémas anatomiques. Dans la lignée de ces bouquins-là qui sont incroyables. Et en effet, je pense réellement que quand tu vois un schéma correct anatomiquement, dans lequel, par exemple, le vagin n'est pas représenté comme un immense trou béant, parce que ça ne correspond pas au réel, dans lequel tu vois une vraie femme, en fait, et pas juste un morceau de corps, je suis persuadée qu'il se passe quelque chose déjà. Juste avec les yeux. Il y a quelque chose qui se produit, c'est évident pour moi. On a été vraiment habitués à ces images fausses. On le sait, hein, dans les manuels scolaires, le clitoris n'est quasiment pas représenté, même dans les schémas où, pour le coup, il pourrait l'être. C'est-à-dire que, bien entendu, la plupart de l'éducation sexuelle à l'école, elle est axée sur la prévention des risques et sur comment ça se passe, la reproduction. Donc, le clitoris n'a aucun impact dans le processus de reproduction. Donc, c'est aussi logique qu'on n'y passe pas, qu'on n'y consacre pas des heures et des heures. Mais même sur les schémas où il devrait être présent, il n'y est pas. Donc oui, on a été habitués à tous ces schémas sur lesquels il manquait toujours des choses, sur lesquels il y avait un peu des idées fausses, souvent très qui véhiculent une image très phallocentrée de la sexualité. Donc oui, c'est évident. Le voir représenté, ça change déjà quelque chose. Et bah, évidemment, le voir sur soi, c'est encore une deuxième étape qui est essentielle et qui souvent change beaucoup de choses chez les femmes qui le font. J'ai pas utilisé tous les témoignages que j'ai recueillis, mais c'est vrai que c'est celui que tu cites là, il se retrouve dans plein de témoignages que j'ai pu recueillir.
Ce qui est assez incroyable en lisant les quelques femmes que tu as pu interviewer, parfois dans un certain âge, c'est de voir à quel point le fait de connaître son corps permet d'avoir une meilleure santé sexuelle, mais surtout une meilleure vie sexuelle. Donc une autre de tes intervenantes dit, je cite, « Parfois, immédiatement après la pratique, le visage et la posture de certaines participantes ont déjà changé. Souvent, ça booste leur libido d'une façon remarquable. C'est comme si leur énergie sexuelle circulait à nouveau. » Donc c'est Sundam, une thérapeute spécialiste de médecine traditionnelle chinoise et de Tao, qui te dit ça. Et j'ai envie de demander, est-ce que ça change la vie de s'auto-explorer et je dirais même de se masturber ?
Moi, j'en suis absolument convaincue, c'est une clé. Connaître ça, savoir à quoi ça ressemble, savoir comment ça fonctionne et se donner cette possibilité, en fait, c'est juste prendre le pouvoir sur soi. Donc oui, déjà rien que la démarche de le faire, d'y aller... déjà, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui change dans l'approche qu'on a de sa vie sexuelle, de son désir, de son rapport à son corps. Je pense profondément que l'une des clés pour avoir une sexualité qui est faite de choix, de consentement, de plaisir, de recherche de désir, etc., c'est quand même déjà d'accepter de ne pas être passive. Et c'est vrai que la sexualité féminine, elle a été longtemps et elle est encore un peu dépeinte dans certains contextes comme quelque chose de passif, quelque chose que les femmes n'ont pas pour elles, mais qui leur arrive des autres, ou qui s'exerce sur elles. C'est quelque chose que plein de femmes ont intégré au point de ne pas se rendre compte que souvent... Enfin, ça m'arrive très souvent, par exemple, de recueillir des témoignages de femmes qui me racontent des relations sexuelles non consenties, mais elles ne s'en rendent pas compte, elles ne mettent pas les mots dessus. Ou alors, qui me décrivent une vie sexuelle concrètement faite de moments où il est plus question de faire plaisir aux autres ou de se soucier de quoi elles ont l'air plutôt que de ce qu'elles ressentent. Donc ça, c'est une auto-objectification qui est totalement intégrée. Et donc oui, c'est évident que ben, prendre ce contrôle-là et faire le choix déjà d'être dans une recherche intime avec soi-même de son plaisir, ça change tout, évidemment.
Il y a même beaucoup de femmes qui ont honte de se masturber parce qu'elles estiment que c'est quelque chose qui manque à leur partenaire si elles en ont un, que du coup c'est comme si on était désespérés. Et c'est hyper important que les femmes intègrent, pas que les femmes et même tout le monde, mais notamment les femmes, qu'elles intègrent que la masturbation est bonne pour la santé, que c'est pas grave, que c'est pas honteux. Et donc ça passe aussi par une auto-exploration, connaître son organe sexuel pour pouvoir justement accepter que la masturbation est une continuité naturelle de ça.
Mmh, bien sûr, mais ça participe juste d'une idée quand même qui a encore du mal à s'implanter dans le cerveau à toutes et à tous. C'est effectivement l'idée que le désir et le plaisir féminin ne sont pas des choses honteuses. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand le site OMG Yes est sorti, ça a été quand même une énorme révolution. On n'en entend plus trop parler en ce moment, mais je pense qu'il faut s'en rappeler quand même de ce moment. C'est quand même un moment où trois personnes, je crois que c'est trois entrepreneuses et entrepreneurs, qui ont lancé un appel en mettant une petite annonce sur Craigslist pour que des femmes acceptent de leur raconter comment elles prenaient soin d'elles-mêmes, comment elles se masturbaient et comment elles connaissaient leur corps et quelles techniques elles utilisaient. Donc des choses ultra précises, ultra techniques qui paraissent... Bah, on se dit, il y a deux personnes qui vont répondre et ça va être des fausses réponses. Eh bien non, en fait, elles n'ont même pas eu besoin de les convaincre. Et elles ont eu une quantité de réponses ahurissantes. Ça, si c'est pas la preuve qu'on est dans un moment quand même, dans une ère dans laquelle on est dans un besoin de partage de ces savoirs-là et d'échange collectif sur le plaisir féminin, je sais pas ce qu'il nous faut de plus, quoi. Donc, et ça, c'était déjà il y a quelques années, donc ça veut quand même dire que le chemin est entamé, je pense.
Je pense qu'il est quand même important de rappeler que l'auto-exploration ne remplace pas les professionnels de santé, mais au contraire a pour but d'aider à déceler plus facilement des symptômes et à arriver devant un ou une médecin la mieux parée possible. Mais est-ce que ça peut aussi éviter de consulter un gynéco, ou en tout cas que quelques fois dans l'année et pas plus ? Enfin, il y a quelque chose qui me frappe souvent, c'est les personnes qui ne connaissent pas la date de leurs règles, sans calendrier, sans pilule. Enfin, en fait, on n'arrive même pas à reconnaître les sensations ou un grossissement ou quelque chose en fait qui se passe dans notre corps, qui nous dit attention, tu auras tes règles dans un ou deux jours. Et du coup, il y a vraiment notamment avec les applications, avec plein de systèmes aujourd'hui qui, en plus, récemment, on a vu que c'était pas toujours très, très fiable. Et en plus, c'était aussi un outil de surveillance, d'une certaine manière. Il y a cette idée de pouvoir s'auto-consulter aussi, sans aller voir un gynéco une fois par mois.
Je pense que c'est clair. Bien connaître son cycle menstruel, déjà, c'est énormissime. Parce qu'en effet, on le sait, les moments du cycle menstruel ont un impact absolument colossal sur plein d'aspects de notre corps et de notre esprit. Donc là, par exemple, le fait que ça fasse très peu de temps qu'on a mis un terme sur le SPM, le syndrome prémenstruel, c'est quand même révélateur de ce manque d'infos. Donc là, aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que le mot est à peu près connu, en tout cas le trouble l'est. Mais c'est vrai que connaître son cycle, c'est colossal. Et puis, on entend beaucoup aussi de choses sur, par exemple, l'autopalpation. Et ça peut être un peu anxiogène parfois. En tout cas, pour certaines personnes, ça l'est. Et donc, c'est pour ça aussi que Juste être à l'écoute de son corps, ça permet aussi de s'éviter des moments de flip total. Et effectivement, des consultations où on arrive complètement terrorisé, alors qu'en fait, on a pris une côte pour une tumeur. Ça m'est déjà arrivé, voilà.
Surtout quand on sait que l'expérience peut être traumatisante pour certaines, parce qu'il y a des violences obstétricales très présentes et très courantes. Donc, est-ce que le fait aussi de s'auto-explorer, de connaître ses sensations, de savoir ce qui va, ce qui va pas, ça peut éviter de tout de suite être alerté, d'être faussement alerté par quelque chose, par un symptôme en fait qui n'est pas réel?
Oui, complètement. En tout cas, ça permet d'identifier beaucoup plus de choses et un spectre beaucoup plus grand d'indicateurs qui, si on connaît mal son corps, peuvent faire flipper. Ou alors, pire, on peut ne pas du tout les identifier ou les voir ou les sentir. Donc oui, bien sûr, ça change tout. Bien entendu, les violences gynécologiques, c'est une réalité. Y a plein de personnes pour lesquelles les consultations chez le gynéco, la sage-femme, sont des très mauvais moments à passer. Mais il y a énormément de professionnels de santé qui sont ultra compétents, bienveillants, formés à ces questions-là, qui savent bien accueillir leurs patients et leurs patientes, qui sont inclusifs dans leur manière de travailler aussi. Ce qui est hyper important, je dirais, pour que les consultations se passent bien, c'est bien entendu de venir informer et de pas subir la consultation, voilà. Donc pour ça, c'est hyper important. C'est pour ça que les détracteurs du mouvement self-help et de ces ateliers, d'exploration, il faut vraiment comprendre que ce mouvement-là, il a absolument pas vocation. Et tu l'as dit, et moi je l'ai écrit parce que c'est hyper important de le marteler.
À remplacer
la médecine, ce n'est pas du tout l'idée. Ce en quoi moi je crois profondément, c'est que les savoirs empiriques que les femmes ont accumulés ont autant de valeur en fait que celui des médecins. C'est juste que c'est deux choses complètement complémentaires. Et après, je pense que le ressenti est quelque chose de très important et que ça peut pas remplacer les bouquins de médecine, mais l'inverse ne fonctionne pas non plus. Donc je crois vraiment que c'est complémentaire. Et donc, pour que ces consultations se passent mieux, qu'elles soient mieux vécues, je pense que c'est aussi important d'arriver à identifier ce qui n'est pas normal et ce qu'on n'a pas à tolérer. Et ajuster les choses, dire les choses à son médecin. On peut pas toujours le faire parce qu'on se sent pas toujours capable et qu'il y a tout souvent un rapport quand même qui n'est pas tout à fait horizontal entre un médecin et un patient. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ces violences existent. Mais par contre, à partir du moment où on arrive à identifier ce qui n'est pas normal et ce qu'on ne veut pas, on peut déjà changer de praticien, essayer de voir ce que ça donne une sage-femme plutôt qu'un gynéco ou l'inverse, ne pas hésiter à en parler autour de soi et à demander juste conseil, parce qu'en fait des super médecins il y en a plein.
Il y a des listes aussi qui tournent.
Il y a des listes de professionnels de santé safe, notamment pour les personnes trans, par exemple, parce que c'est encore plus compliqué de trouver des médecins qui soient informés sur ces questions-là et qui sachent les accueillir convenablement. Ou même pour les femmes lesbiennes, en fait, parce qu'en vérité, il y a plein de problématiques qui ne sont pas comprises. Par plein de médecins. Donc voilà, effectivement, ces listes, elles existent, elles sont ultra précieuses. Mais là encore, c'est du partage d'expérience entre femmes, souvent, entre personnes concernées en tout cas. Moi, j'adore ce médecin, je le conseille. Cette sage-femme, elle est géniale. Voilà, c'est pas du tout un TripAdvisor de gynécologie, mais c'est vraiment du partage d'expérience entre pairs et c'est hyper important.
Est-ce que tu peux juste nous préciser? C'est quoi concrètement la différence entre un gynéco ou une gynéco et une sage-femme ?
Alors oui, d'ailleurs, sage-femme, on dit pas sage-homme, mais il y a des hommes qui sont sage-femmes, mais sage-femme, c'est-à-dire qu'ils connaissent les femmes, donc on dit toujours sage-femme. Et donc, la différence, c'est que les gynécos sont des médecins, les sages-femmes sont des soignants, et en fait, les sages-femmes, on le sait assez peu, mais on va pas que les consulter quand on est enceinte ou quand on vient d'avoir un enfant. Les sages-femmes, elles sont à même de faire tout le suivi gynécologique d'une patiente ou d'un patient en bonne santé. En fait, à partir du moment où il y a un problème médical qui nécessite une visite chez un médecin, bah, dans ce cas-là, on est rebasculé avec un médecin ou avec un gynécologue. Mais donc, on peut être suivi entièrement pendant pour tout son suivi gynécologique par un ou une sage-femme. Et donc, les sages-femmes sont en mesure de à la fois faire tout le suivi gynécologique, mais aussi de prescrire la contraception, de faire toute l'information gynécologique que les gynécos donnent et peuvent aussi s'occuper de d'IVG médicamenteuse. Donc c'est très bon à savoir puisqu'en fait les options pour les consultations gynéco sont beaucoup plus larges que la plupart des personnes l'imaginent.
Au-delà de s'auto-explorer, ton livre est aussi une occasion de revenir sur des idées reçues autour de l'organe féminin. Par exemple, le fait que le vagin est la zone la plus propre du corps humain et qu'il ne nécessite donc pas d'être nettoyé.
Comme un chat.
Voilà. Ou que le point G n'est pas un point, mais plutôt une zone et encore moins un bouton sur lequel on appuie machinalement pour avoir du plaisir. Ou encore qu'on sait... depuis le XVIe siècle, que le clitoris est déclencheur de plaisir féminin. Donc toutes ces infos sont très utiles. Et je me demande si, est-ce que ce ne sont pas les faussetés qui circulent sur notre corps qui nous empêcheraient de le connaître au mieux ?
Ce qui est sûr, c'est qu'on les intègre, ces fausses informations. On les lit beaucoup encore, c'est ça qui est terrible. Moi, je continue à entendre énormément de fausses informations, à en lire, même dans des bouquins, dans des journaux, et à en entendre souvent. Donc oui, évidemment, toutes ces fausses informations, elles forgent notre vision de notre sexualité, de notre sexe et de notre corps. Oui, c'était important pour moi de ne pas rester dans la seule observation. J'ai pas non plus voulu donner, j'ai pas voulu faire un manuel, anatomique ou un bouquin d'SVT 2.0, mais c'est vrai que c'était une occasion clairement pour montrer que parfois, rien que de prendre le miroir et de regarder, on se rend compte que en fait, ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on a pu imaginer. Et du coup, c'est peut-être un moment propice pour s'interroger sur pourquoi on a imaginé un truc pareil. Souvent, c'est des fausses idées qui viennent du fait que on a un peu tous et toutes grandi dans une vision hétéronormée de la sexualité.
Patriarcale.
Bien entendu, et donc avec ça, il y a toute une imagerie qui se crée. Donc j'en parlais tout à l'heure avec l'idée très répandue que le vagin serait un trou béant. J'en parle aussi dans le livre, le fait qu'on appelle ça l'entrée. Mais qu'en fait, c'est beaucoup plus souvent une sortie. Et tous ces petits mots sont pas du tout des éléments secondaires. En fait, c'est hyper important. Enfin, l'histoire de la gynécologie, c'est une histoire qui est pas très feel good. Mais c'est beaucoup une histoire de mots et de médecins qui font des découvertes dans des conditions souvent
atroces.
Oui, le mot est le bon, et qui mettent leur nom sur des parties de l'anatomie et féminine, et du coup c'est vrai que ça a été important pour moi aussi de parler de ces mots là et de les déconstruire. Il y a une militante féministe espagnole qui travaille sur ça, sur les points qui portent le nom de plein de médecins atroces, pour reprendre ton qualificatif bien adapté, et qui les renomme en fait tous ces points du nom des femmes qui ont souvent été utilisées comme des cobayes pour que ces expériences puissent donner lieu aux découvertes en question. C'est une femme qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Ginépunk. Elles font un énorme travail là-dessus. Elles ont fait plein de choses géniales. Elles ont notamment créé un kit en fait qu'on peut fabriquer soi-même avec des objets totalement du quotidien comme une webcam si on démonte son ordinateur et je sais pas, des piles, enfin voilà, des choses du quotidien qu'on peut trouver partout, et en hackant ces objets-là on peut se fabriquer un kit. Et elles ont pensé conçu ce truc-là pour les femmes qui n'ont pas forcément accès à la médecine ou qui n'ont pas de sécurité sociale et qui donc ne peuvent pas consulter, donc principalement les prostituées, les migrantes. Donc elles ont toute cette réflexion-là sur la réappropriation aussi des outils à proprement parler, littéralement les outils vraiment technologiques, et elles sont vraiment passionnantes. Et en effet, toute cette réflexion aussi qu'elles ont menée sur les noms qui sont donnés aux parties de l'anatomie, moi je trouve ça passionnant. En l'occurrence, il y a un des médecins qui a expérimenté en fait sur des esclaves noires qu'il tenait captives dans sa maison. Et il en a tué un nombre incalculable en fait. Et donc il y en a certaines qu'il a nommées dans ses petites notes. Et donc c'est ces prénoms-là qu'elle a récupérés et qu'elle a attribués à ces zones.
En lisant ce guide, je me suis demandé si ce n'était pas aussi un livre à mettre dans les mains d'hommes, notamment ceux qui sont dans des relations hétérosexuelles, puisqu'on sait que les femmes cis-hétéros ont moins d'orgasmes que leurs compères masculins cis-hétéros, et que celles-ci ont moins d'orgasmes que leurs voisines lesbiennes, avec 74,7% d'entre elles qui atteignent l'orgasme, contre 61,6% pour les premières. Selon une étude du Journal of Sexual Medicine, parue en 2014, en France, on a des chiffres, mais c'est toujours un peu vague. Enfin,
ouais, en tout cas, ça m'a l'air d'être tout à fait concordant avec le réel, en tout cas.
Ouais. Et le problème est sans doute qu'ils ne connaissent pas assez l'organe sexuel et génital de leur partenaire.
Oui, ça fait partie du problème, c'est certain. Après, je pense que le problème, à mon sens, se situe en amont. C'est-à-dire que je pense qu'une très grande partie des hommes qui sont dans des relations hétéros, effectivement, ne se posent même pas la question. Et c'est peut-être là le premier problème. Oui, on le sait, il y a bien des relations sexuelles hétéros qui s'arrêtent quand l'homme a joui, en fait. Par exemple, Dora Mouto, elle a travaillé dessus. Je trouve que c'est...
Son compte Instagram, T'as joui, ouais. Qui venait justement de cette problématique.
Et d'une vidéo, c'est important de la créditer aussi parce qu'elle était vachement bien, une vidéo d'une journaliste américaine qui était allée faire un micro-trottoir et qui avait demandé à des hommes qui avaient posé cette question toute bête en fait ça s'est passé comment votre dernier rapport sexuel et est-ce qu'elle a joui? Et la réponse était souvent en fait, je sais même pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se posent pas la question. Donc oui, je pense qu'il y a un manque de curiosité absolue, en fait, à la base même du problème. Donc moi, je veux bien leur mettre tout mon bouquin dans les mains, mais
si vous nous écoutez, vous pouvez l'acheter.
Non, la base, pour moi, c'est d'abord de considérer que la personne de l'autre côté du lit a peut-être des désirs propres, un plaisir à elle, et que ce serait peut-être intéressant que les relations sexuelles, quelles qu'elles soient à double sens et prennent en compte les deux parties. C'est peut-être la première chose. Donc plein d'hommes hétéros ont tendance à ne même pas prendre en compte cet aspect-là. Et plein de femmes hétéros aussi sont dans une autocensure absolue. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne se questionnent pas là-dessus. Donc ça, c'est les deux faces de la même pièce, évidemment. Mais voilà, donc je ne sais pas si mon livre peut participer à régler cet immense problème et ce jeu de dupes des couples hétéros. Mais j'aimerais bien qu'il y participe, c'est sûr.
Pour finir, est-ce que tu as des recos d'ouvrages à lire ou des docus à voir pour aller encore plus loin ?
Plein.
Ok.
Les deux premières recos que j'ai, c'est les deux bouquins des années 70 fous. Alors évidemment, c'est pas des bouquins qui se lisent comme un roman de 200 pages. C'est vraiment des gros manuels et ça a peut-être pas vocation à être lu du début à la fin de façon exhaustive, mais en tout cas, c'est hyper intéressant d'y jeter un œil. Le premier, c'est Notre corps, nous-mêmes, qui est sorti en 1971, qui a été écrit, c'est un ouvrage collectif qui a été fait par le collectif féministe de Boston, donc c'est le premier ouvrage que je cite dans mon livre.
Il me semble qu'il y a une réédition.
Exactement, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il est en train d'être réédité par des Françaises là cette année. Le deuxième, c'est un livre qui s'appelle, donc il est pour le coup, il n'existe qu'en anglais, New View of a Woman's Body, qui a été celui-là écrit en 81 par la Fédération américaine des centres de santé féministes. C'est pas un bouquin qui se lit tranquillement dans le métro, je pense que c'est quand même un gros pavé médical, mais c'est fou d'y jeter un œil, juste de voir à quoi ça ressemble. Et même juste pour regarder les images, rien que ça, c'est chouette. Et après. Oui, il y a d'autres bouquins qui, pour moi, ont fait la différence et que j'ai envie de recommander. Puisque moi, je suis très attachée à cette période des années 90 aussi et du mouvement punk et des fanzines qui ont été montées par plein de femmes qui avaient qui gravitaient dans l'univers du punk et des Riot Girls. J'ai un bouquin que j'adore qui s'appelle Riot Girls, chronique d'une révolution punk féminine, qui est de Manon Labrie aux éditions Zone, qui est un super essai qui retrace toute l'histoire du mouvement, et c'est un mouvement qui est fascinant. Et l'autre, qui est un livre que j'adore, c'est un gros pavé qui s'appelle The Riot Girl Collection. C'est un bouquin qui est génial parce qu'en fait, il a été fait par une femme qui s'appelle Lisa Farms, qui est une documentariste qui vient d'Olympia dans l'État de Washington. Et Olympia, c'est l'un des villes berceaux vraiment du mouvement punk. C'est notamment là qu'est né le groupe Bikini Kill. Et donc elle, en fait, elle était au lycée avec ces gens-là et elle est restée là-bas. Et du coup, elle est devenue documentariste et donc elle a accès à une immensité de fanzines de l'époque dans leur version originale. Elle les a tous rassemblés dans ce bouquin. C'est génial. C'est génial à lire. C'est une plongée dans cette période et dans cet univers. Et après, mes grands classiques, je suis venue un peu avec ma table de chevet. Pardon.
Vas-y, fais-toi plaisir. C'est
un autre de mes classiques qui est vraiment en plein dans cette problématique aussi de juste cette démarche de prendre ce moment pour soi et de s'autoriser à aller vers la connaissance de soi. C'est un immense classique, c'est Une chambre à soi de Virginia Woolf. C'est un bouquin, évidemment, qui ne parle pas de ça à proprement parler, parce que c'est un bouquin qui parle de littérature et de la difficulté pour les écrivaines femmes à se faire une place. Et donc ça n'a pas grand-chose à voir à proprement parler, sauf qu'en en fait, elle évoque vraiment beaucoup, et je trouve avec beaucoup de modernité, ce que ça peut changer dans une vie, et notamment dans une vie de femme, d'avoir cet espace à soi, qu'il soit physique ou qu'il soit un espace mental. Pour rebondir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, sur le fait de se connaître soi et de pas, du coup, un peu peut-être, un peu moins en tout cas, laisser les autres nous apprendre ce qu'on est censé savoir, parce que c'est inhérent à nos vies. Un livre que j'adore, c'est Men Explain Things to Me, qui en français est sorti et a été traduit par Ces hommes qui m'expliquent la vie de Rebecca Solnit. C'est un bouquin qui est tellement drôle, tellement bien écrit. Pour le coup, celui-là, il se lit dans le métro, facile. Il est génial. Et ouais, je le recommande vraiment parce que c'est du récit, mais c'est aussi vraiment des outils en filigrane. Pour laisser personne nous raconter ce qui est notre propre expérience. Et ensuite, Les monologues du vagin d'Evansler, qui est vraiment un bouquin qui est top, même si, en fait, c'est pas les monologues du vagin, c'est les monologues de la vulve, donc même si c'est une queen absolue, Evansler, et que je l'admire immensément, elle est aussi le reflet d'une partie du problème, puisque une partie du problème de pourquoi les femmes connaissent si mal leur corps, c'est aussi parce qu'on n'y met pas les bons mots. Et je l'avais interviewée il y a plusieurs années et on a vu cette longue discussion et elle m'avait dit « Ouais, c'est vrai, j'aurais dû appeler ça les monologues de la vulve. » Et elle m'a dit « Mais ça ne serait pas vendu. » Et après, le documentaire « Too Much Pussy » d'Émilie Jouvet, pour moi, c'est un film qui est génial à regarder aussi pour aller un peu plus loin sur ces questions-là. C'est un film qui est hyper joyeux. Et qui parle de ce moment où on décide de se connaître un peu mieux. Et c'est une fête, ce film. Et en dernier, je voulais quand même citer Clit Révolution, parce que je trouve que Elvire et Sarah font un travail que je trouve aussi super joyeux et vraiment salutaire. Et très, 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 très pédagogique aussi. Donc voilà. C'est tout.
Donc, plein de belles choses à lire et à voir.
On peut refermer ma table de chevet.
Merci beaucoup, Clarence.
Merci à toi pour cette invitation.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode réalisé par Thomas Play, merci Thomas. Vous pouvez laisser des notes sur iTunes ou ailleurs et vous pouvez même réécouter tous les autres épisodes sur Binge Audio. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. Merci, à très vite.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.